Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la rivalité Chine-Japon. Bonjour à tous. Rivalité dans la course au leadership en Asie. La crise économique qui sévit dans le monde sert-elle de marchepied à la Chine? Les dirigeants chinois souhaitent-ils eux-mêmes que leur pays accède à une telle visibilité, source de grande satisfaction, mais aussi de lourdes responsabilités? Avec un taux de croissance frisant les 9% pour l'année 2009, Pékin vient de supplanter le Japon dans la course à la deuxième place de l'économie mondiale. Que va faire Tokyo de cette fragilité de son positionnement international? Quel scénario pour les 20 prochaines années? Le Japon va-t-il se soumettre à l'hégémonie chinoise? Entrer en conflit avec Pékin ou solution intermédiaire? Va-t-on voir s'ouvrir une période de coopération entre ces deux voisins territorialement si différents? La Chine est 26 fois plus grande que le Japon et 10 fois plus peuplée. C'est dire combien peut être passionnante l'analyse de cette course au leadership dans une compétition apparemment inégale. Nos invités pour ce débat, Jean-Marie Bouissou depuis Tokyo, spécialiste du Japon contemporain, titre d'un ouvrage qu'il a dirigé paru chez Fayard, enseignant à Sciences Po. Jean-Marie Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Ou bonsoir en ce qui vous concerne.
Presque bonsoir.
Par téléphone également, Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions de sécurité et défense dans le monde. Bonjour Jean-Vincent Brisset.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Jean-François Di Meglio, enseignant à Sciences Po Paris, président du think tank Asia Centre. Bonjour Jean-François Di Meglio.
Bonjour.
Et Claude Meyer, professeur d'économie internationale à Sciences Po, auteur de Chine ou Japon, quel leader pour l'Asie, qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, collection Nouveau Débat. Bonjour Claude Meyer.
Bonjour.
L'actualité donne tout son poids à ce débat autour de la rivalité entre la Chine et le Japon, pas seulement économique mais également militaire. Pékin annonçait au début du mois de mars une croissance réduite de son budget militaire. C'est la première fois en 21 ans, 7,5% en 2010 contre une moyenne de plus de 15% entre 1999 et 2009. La masse globale du budget militaire de la Chine n'en reste pas moins opaque. 57 milliards d'euros, c'est le chiffre officiel des Chinois. Alors que les Américains parlent d'une fourchette allant de 77 à 110 milliards d'euros. Parallèlement, une polémique a cours au Japon ces jours-ci autour d'un accord secret signé en 1969 entre le Premier ministre japonais Eisaku Sato et le président américain Richard Nixon autorisant le dépôt d'armes nucléaires américaines au Japon. Cet accord était devenu au fil des années une sorte de secret de polichinelle. Vous allez nous le confirmer ou nous l'infirmer, Jean-Marie Bouissou. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il est officiel. Qu'est-ce que cela change dans le rapport de force Chine-Japon, voire dans la triangulation incluant les États-Unis?
C'était bien un secret de polichinelle et les Japonais n'ont rien appris qu'ils ne savaient déjà. C'est une chose de le savoir et c'est autre chose que ça devienne public. Ce que cherchaient les partis démocrates qui occupent le pouvoir depuis les élections du 30 août dernier, c'était à la fois une attaque contre l'administration, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, qui connaissait les accords et dont les vice-ministres administratifs successifs l'ont caché, et d'autre part les États-Unis, puisque ces accords sont tout à fait emblématiques de la relation inégale entre Japon et États-Unis, puisque le Japon avait une politique officielle qui lui interdisait d'accepter les armements nucléaires sur son territoire et que, en fait, il avait cédé aux pressions américaines pour les accepter de facto. Alors, ça change pas grand-chose. L'opinion, connaissant déjà en fait cette affaire, ne va pas s'indigner. Mais par contre, ça va causer des difficultés pour l'avenir parce que quid maintenant des armes nucléaires américaines? Probablement, ils n'en stationnent plus au Japon, mais c'est aussi un secret de polichinelle que des bâtiments portant des armements nucléaires entrent de temps en temps pour relâcher dans certains ports japonais. Bon. Alors maintenant, le gouvernement japonais est obligé, en principe, de demander aux Américains de jurer qu'ils n'introduisent pas d'armes nucléaires, ce qui est absolument contraire à la politique fondamentale des États-Unis en la matière, qui est jamais dénié ni confirmé. Les Américains ont une politique absolue, on ne répond jamais à ce genre de questions. Et par conséquent, ça pourrait entraîner des difficultés, voire de mini-crises, assez vite. Alors en l'occurrence, les Japonais se sont probablement tiré une balle dans le pied en ce qui concerne la relation avec la Chine, parce que Pékin fait évidemment, on ne dit rien à Pékin, mais on observe avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amusement les frictions entre le gouvernement démocrate et les États-Unis, car l'affaire de l'accord, des accords secrets n'est que le dernier d'une longue suite de frictions depuis 8 mois.
Jean-Vincent Brisset, un commentaire sur ce que vient de dire Jean-Marie Bouissou, en sachant pour nos auditeurs que l'alliance militaire Japon-États-Unis, ça a toujours été l'abêtement de la Chine.
Tout ce qui est militaire au Japon, c'est la bête noire de la Chine depuis toujours. Ce qu'a dit Jean-Marie Bouissou est tout à fait exact. Les États-Unis avaient cette politique « no confirm, no deny » qu'ils ne vont peut-être plus pouvoir appliquer, à moins qu'on trouve un compromis comme ça a été trouvé avec l'Australie, par exemple, où la question est vaguement posée, il y a une vague réponse et tout le monde s'en satisfait.
Un commentaire rapide sur la réduction du budget de la défense chinois, Jean-Vincent Brisset.
Oui, alors je pense qu'on a beaucoup exagéré un certain nombre de choses quand on parle de la défense chinoise. La première, c'était, vous avez dit que sur 20 ans, on était sur des croissances à deux chiffres. Ces croissances à deux chiffres, elles sont largement destinées à deux choses qui ne sont pas des augmentations de la puissance militaire. La première, c'est un train de vie pour le militaire de base, c'est-à-dire un des problèmes de salaire et de solde et de logement, qui était très très défavorisé et qui maintenant s'améliore petit à petit. Une deuxième chose, et je crois que c'est la plus importante, c'est le rattrapage, une certaine sortie de l'opacité. Le budget chinois, tel qu'il était annoncé il y a 15 ans, un certain nombre d'instituts estimaient qu'il fallait le multiplier entre 3 et 8 fois pour avoir un chiffre réel. À l'heure actuelle, les instituts sont entre 1,5 et 2 fois pour avoir un budget réel. Donc il y a tout un effet de rattrapage pour avoir une certaine transparence et une comparaison possible avec d'autres budgets de défense, sachant aussi que le renseignement a permis d'être beaucoup plus précis vu de l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que l'augmentation a été aussi importante que les chiffres le révèlent. Et ce qu'on voit, c'est que cette armée chinoise demeure une armée extrêmement pauvre selon nos critères. Hein, le budget militaire chinois, tel qu'il est annoncé, même s'il faut le multiplier par deux, c'est 10% du budget des forces américaines avec le double d'effectifs pour la Chine. Donc un militaire chinois dispose pour vivre, pour être équipé et pour être payé de 5% de ce que peut avoir un militaire américain. Ça fait quand même une sacrée différence sur le plan de la qualité opérationnelle.
Donc les États-Unis, à vous entendre, toujours la grande puissance militaire en Asie.
Bien entendu.
Je pense que
Jean-François, il y a
un élément qui est extrêmement difficile à évaluer, mais dont on sait tous que c'est la variable d'ajustement, parce qu'il se situe à la pointe fine de la technologie chinoise, c'est la part du militaire spatial dans le spatial. C'est-à-dire que le programme spatial chinois est de plus en plus visible. Il est très souvent présenté comme faisant très clairement le départ entre ce qui est civil et ce qui est militaire. Néanmoins, on a à peu près la certitude que chaque mission civile comporte une dose de militaire. Et autant, effectivement, le train de vie du soldat moyen en Chine, je pense, peut très bien s'accommoder d'un niveau de vie très bas parce que, on est dans un contexte où, je dirais, le hardship, la difficulté, est beaucoup plus facilement acceptée que dans un pays où, pour recruter des GI, il faut quand même faire pas mal d'efforts. Il faut aussi assurer leur confort. En revanche, là où on est à la fine pointe, donc à la consommation maximale de technologie et de capital, je pense qu'on a probablement une variable d'ajustement qu'il faudrait analyser.
Claude Meyer.
La question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, et je ne sais pas s'il y a une réponse d'ailleurs, c'est qu'on a quand même, en termes d'augmentation, une réduction considérable, puisque auparavant c'était une pente de 15% et là on est à 7%. Est-ce que c'est purement conjoncturel comme un signe, voyez, la crise, tout le monde a souffert dans le pays, etc. Et donc l'armée et le secteur public doit en prendre sa part, ou bien est-ce que c'est une tendance durable? Ce qui me surprendrait, dans la mesure où le rattrapage technologique, ça vient d'être dit, est encore considérable, notamment pour tout ce qui peut être informatique embarquée, les capacités de projection de la marine chinoise, etc., etc.
Jean-Vincent Brisset, vous vouliez dire quelque chose?
Je pense qu'il faut quand même bien se remettre dans la tête que la Chine a un retard technologique considérable, même au niveau spatial. Hein, le retard technologique de la Chine, c'est 30 ans par rapport aux États-Unis ou même à l'Europe. Hein, et les démonstrations qui ont été faites de tirs dans l'espace sont des démonstrations qu'ont fait les Russes et les Américains au début des années 80. Donc il ne faut quand même pas se dire que la Chine est à une pointe au point de vue technologique. La Chine demeure très très en retard. Et elle a fait appel d'ailleurs pour ces technologies à des piratages et à des contrefaçons et à des détournements de technologies duales, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas capable de développer par elle-même.
Je pense que c'est pas le débat. Je pense que le débat n'est pas de savoir s'il y a des piratages ou pas. Je pense que le débat, c'est deux choses. Le débat, c'est le taux de croissance des dépenses consacrées au spatial et les résultats qu'il démontre, puisque entre les deux démonstrations spatiales auxquelles vous faites allusion, il se passe un peu moins de 3 ans. Et on passe effectivement d'un stade, je dirais, de destruction sale d'un satellite par un missile à une destruction propre avec un exercice qui est d'une finesse quand même assez rare, puisque il s'agit bien de la destruction d'un missile dans son parcours par un autre missile. Donc moi, ce que j'observe, c'est le rattrapage. Encore une fois, je ne dis pas qu'on a un niveau de technologie extrêmement important. Ce que je dis, c'est que des investissements importants sont faits pour faire ce rattrapage et qu'on a des preuves de ce rattrapage vu la rapidité avec laquelle les différentes étapes sont franchies. Mais naturellement, je prends tout à fait acte de votre point sur le retard, toujours très difficile à accumuler puisque les chemins se ressemblent mais ne sont pas toujours identiques en termes de progression vers le spatial.
Alors ce retard technologique de la Chine, Jean-Marie Bouissou, au Japon, et après ça on abordera la question économique, ça rassure un peu le Japon aujourd'hui ?
Je ne crois pas que le Japon perçoive le gap technologique avec la Chine aussi grand que les spécialistes occidentaux peuvent le percevoir. Les Chinois ont montré, en matière militaire je ne sais pas, mais en matière de technologie civile, qu'ils remontent l'échelle beaucoup plus vite qu'on ne l'avait généralement pensé. Il n'y a pas de raison de supposer qu'ils ne la remontent pas également relativement vite en matière militaire. Mais de toute façon, ce qui inquiète les Japonais, ce n'est pas du tout la technologie militaire spatiale chinoise. Il y a deux éléments dans les armements chinois dont on n'a pas parlé et qui sont pour l'archipel le vrai danger. Le premier, c'est tout simplement une chose très simple. Les Chinois ont une force balistique, ils ont un armement nucléaire, les Japonais n'en ont pas et n'ont pas les moyens de défense antibalistique qui leur permettraient de se mettre à l'abri. L'autre chose, c'est que la marine chinoise, effectivement, la marine de haute mer chinoise n'est pas une capacité de projection, mais c'est pas sur la marine de haute mer que les Chinois mettent le paquet, c'est sur les forces sous-marines, qui sont une technologie relativement plus simple, qui sont beaucoup moins vulnérables, moins repérables, et chacun sait bien que les Chinois ont fait des relevés extraordinairement détaillés des fonds, ils connaissent extrêmement bien tous les fonds des mers asiatiques, et qu'ils ont aujourd'hui une capacité sous-marine qui est certainement ce qui est le plus dangereux dans leur marine. Et par conséquent, j'ai jamais vu ici de discussion sur la guerre des étoiles avec les Chinois. Par contre, oui, que les Chinois ont quelques centaines de missiles pointés sur l'archipel avec des armes nucléaires, c'est ça qui réellement inquiète les Japonais.
Claude Meillard, vous voulez réagir ?
Oui, je voudrais revenir sur la question technologique. J'imagine qu'on va en reparler et peut-être, donner un autre point de vue que celui de mon ami Jean-Marie sur la perception par les Japonais du gap technologique. Il est mieux placé que moi. En revanche, au niveau des chiffres, je pense qu'il y a des indications qu'il faut quand même garder en tête. Quand on dit la Chine est en train de monter en gamme technologique, sur quoi se base-t-on ? On se base sur les chiffres d'exportation, de matériel high-tech, la montée en gamme dans l'automobile, etc., etc. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, globalement, 50% des exportations chinoises sont le fait d'entreprises étrangères et que dans précisément les produits à forte valeur ajoutée, ça atteint pratiquement 70 ou 75%. Donc, les technologies exportées, elles sont en provenance de ce qu'on appelle le circuit intégré asiatique, c'est-à-dire en provenance du Japon, de la Corée, de certains pays de l'ASEAN, avec donc une partie d'assemblage où la valeur ajoutée est relativement faible. Donc là, je crois que la Chine est tout à fait consciente du retard considérable qu'elle a, par rapport au Japon très évidemment, mais également par rapport aux États-Unis. À tel point donc que le plan 2005-2020 pour la science et la technologie, qui a été un exercice absolument remarquable, où pendant 3 ans, on a réuni tous les think tanks, on les a fait plancher sur des tas de sujets pour arriver à dégager les techniques sur lesquelles la Chine se placerait en pointe. Parce qu'en fait, actuellement, la dépendance dépendance technologique, et c'est une des trois dépendances majeures de la Chine, où il faut relativiser effectivement son ascension, c'est la dépendance technologique.
Pour poursuivre avec, parce que la première partie de l'émission et la fin approche, pour poursuivre sur l'aspect technique, technologique, Jean-Marie Bouissou, je me tourne vers vous. Comment l'affaire Toyota, avec les difficultés de cette entreprise automobile, est-elle vécue au Japon ?
Très mal. La fierté nationale japonaise a reçu deux grands coups avec la faillite de Japan Airlines et maintenant avec l'affaire de Toyota. Parce que Toyota, c'était l'entreprise emblématique, celle qui avait traversé la crise sans aucun problème, qui connaissait une croissance constante, qui était devenue le premier producteur mondial. Toyota, c'était vraiment ce qui restait de la fierté traditionnelle de l'industrie japonaise. Toyota était notamment réputée pour la fiabilité parfaite de ses modèles. Et donc Toyota est là vraiment pris en défaut sur quelque chose qui faisait sa force et sa fierté. S'y est ajouté un petit peu quand même le sentiment que les Américains en avaient odieusement profité, que les constructeurs américains avaient orchestré une campagne contre Toyota. Donc l'affaire Toyota a fait beaucoup de gros titres ici et elle a été mal vécue. Mais d'un autre côté, elle contribue aussi à nourrir un certain anti-américanisme, serait beaucoup dire. Enfin, c'est une friction de plus avec les États-Unis. C'est clair, Toyota est l'objet de reproches dans l'opinion. On considère que certes, ils n'auraient pas dû laisser passer des choses pareilles. On déplore que Toyota, si vous voulez, se soit normalisé, que Toyota agisse comme n'importe quel autre constructeur qui essaye de faire des économies sur tout, y compris sur la sécurité, y compris sur les recalls, etc., qui cache des choses. Tout ça est évidemment mal vu, mais d'un autre côté, on considère aussi Toyota un petit peu comme une victime des Américains.
Jean-Vincent Brisset, un petit commentaire rapide.
Oh non, je pense que sur Toyota, j'ai pas grand-chose à dire, mais effectivement, il y a quand même toujours ce problème de la technologie, il faut la démontrer, les capacités technologiques, il faut les démontrer. Le Japon était sur une succession de réussites au point de vue démonstration, et là, cette affaire Toyota, c'est un écueil qui est assez lourd à porter, je pense.
Et qui ne peut être que favorable à la Chine. Claude Meyer, la Chine qui a enregistré 9% de croissance économique en 2009. Est-ce que finalement cette crise sert de marchepied à Pékin pour accéder au statut de superpuissance ?
Oui, il est évident que la performance chinoise est spectaculaire, encore qu'il faille bien voir que la crise mondiale, contrairement à l'opinion générale pendant les années de forte croissance, d'un découplage de l'Asie, la crise s'est transmise à l'Asie par le biais du commerce extérieur. Donc ça a révélé tant du côté de la Chine que du Japon une dépendance vis-à-vis du commerce extérieur. Donc ce qu'a fait la Chine, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est la décision massive et quasi immédiate de remplacer la demande externe par une demande interne, mais qui est une demande publique. Donc, effectivement, le taux de croissance est spectaculaire. Il est peut-être source de problèmes, ou en tout cas, il ne résout pas le problème, à mon sens, de l'économie chinoise, de sa dépendance vis-à-vis de la demande externe et de l'insuffisance de la consommation intérieure.
On en parlera dans la deuxième partie de l'émission géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la rivalité entre la Chine et le Japon dans la course au leadership en Asie. Nous retrouvons nos invités Claude Meyer, Jean-François Di Meglio, Jean-Vincent Brisset et Jean-Marie Bouissou dans quelques instants. À tout de suite.